Delphine Orwiller, bonjour.
Bonjour.
Tania de Montaigne, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à l'invitation des élèves du lycée Louis-Armand d'Aubonne en participant à cette émission pour la web radio du lycée. Delphine Orwiller, en tant que femme, rabbine, écrivaine et philosophe, vous incarnez une nouvelle perception de la religion. Tania de Montaigne, vous êtes écrivaine, journaliste, vous êtes une des figures emblématiques de la lutte contre les inégalités. Si vous êtes toutes deux ici, c'est parce que vous êtes des femmes. Des femmes qui ont une influence sur la scène médiatique et donc quelque part des femmes de pouvoir. Ainsi, malgré vos parcours très différents, vous vous réunissez sur des valeurs communes comme le vivre ensemble. L'actualité présente semble, en France comme à l'étranger, montrer la difficulté à le réaliser.
Delphine Orwiller, bonjour. Qu'est-ce qui vous a motivé de passer de mannequin à femme rabbine? Et Tania de Montaigne, pourquoi journaliste? Pourquoi ce métier?
Alors je vais commencer. Alors moi j'ai pas vraiment été mannequin. J'ai eu une toute petite expérience de mannequin, mais de façon intéressante, on me la rappelle toujours. C'est-à-dire que j'ai une fiche, par exemple Wikipédia, où plein de gens ont enlevé cette mention, mais il y a des gens qui s'acharnent à le remettre comme si j'avais fait une carrière énorme dans le mannequinat, ce qui n'est pas le cas. Mais c'est vrai que j'ai fait d'autres métiers avant de devenir rabbin. J'ai été d'abord étudiante en médecine et ensuite je suis devenue journaliste. Et en fait, il m'a fallu des années pour comprendre que plein de choses me menaient vers le rabbinat, mais j'y aurais jamais pensé parce qu'il n'y avait pas de femme rabbin dans mon enfance autour de moi. C'était pas une possibilité même à imaginer. Donc je pensais devenir médecin, puis journaliste, parce qu'il y a dans la médecine, dans le journalisme, une centralité de l'écoute de l'autre, du rapport à l'autre qu'on accompagne, de façon très différente certes, mais toujours dans un sacré de l'écoute. Et puis un jour, ça s'est passé pour moi aux États-Unis, je me suis rendu compte qu'il y avait des femmes rabbins, et tout à coup, leur existence et la conscience de leur existence a fait que ça m'est apparu comme une évidence, que c'était aussi ce qui m'appelait. Et donc j'ai pu prendre ce virage et faire un séminaire rabbinique et devenir rabbin d'une grande synagogue à Paris.
Et moi, en fait, je suis devenue journaliste, mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'était pas du tout ni ce que j'avais prévu, parce que moi, je voulais réfléchir sur la question de l'éducation. Donc je voulais passer l'ENA. Et puis essayer de comprendre pourquoi est-ce que là où je vivais, il y avait toujours des décisions qui me paraissaient étranges, comme repeindre en permanence les boîtes aux lettres. Bon, c'était une obsession, alors que les gens vivaient quand même pas super bien. Donc je me disais, c'est bizarre qu'on se concentre. Donc je voulais faire ça, et il se trouve que moi, il fallait que je travaille pendant que je faisais mes études, et que j'ai une copine qui était standardiste à Europe 1, précisément. Et elle me dit donc, tiens, j'ai vu passer un truc de boulot, ça a l'air mieux payé que ton boulot de serveuse. C'était ça le critère. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée à Canal J et que j'ai été embauchée. Donc, je suis devenue journaliste et j'ai appris, c'était génial parce qu'à Canal J, l'idée, c'est que qui avait une idée pouvait la faire. Il n'y avait pas d'argent, mais il y avait des idées et on pouvait les mettre en œuvre. Et donc, voilà, j'ai appris ce travail-là par là.
Delphine Orwiller, féminisme et religion, est-ce compatible?
Alors, la réponse, c'est ça dépend à qui vous demandez. En fait, il y a beaucoup de gens au sein du monde religieux qui vous diront que c'est incompatible parce que, ou plutôt, ils l'habilleront de façon beaucoup plus polie et élégante en vous disant que les femmes n'ont pas besoin d'avoir accès à la pleine égalité des rôles parce qu'elles ont au sein de nos traditions religieuses un rôle incroyablement sacré. Elles doivent être des mères, des épouses, élever les enfants, etc. Et en fait, c'est une façon un peu élégante de dire aux femmes, voilà quel est votre territoire. Et attention, surtout, ne dépassez pas de cette zone qui est en général la zone du foyer, de l'intériorité, une sphère domestique, etc. Mais moi, je pense que nos traditions religieuses pourraient être vivantes, mais toutes nos traditions en général, pas juste religieuses, une tradition vivante, c'est une tradition qui a la capacité de prendre en compte les temps nouveaux qu'elle traverse. Et parce que les femmes n'ont plus, j'ai envie de dire Dieu merci, le rôle qu'elles ont eu dans l'histoire uniquement, c'est pas restreint aux sphères de l'intériorité, mais les femmes peuvent aujourd'hui exercer leur expertise dans plein de domaines, eh bien je pense qu'une pensée vivante se doit d'être capable d'intégrer cette présence féminine autrement, y compris au sein des institutions religieuses. Mais ça implique, c'est vrai, une dose de regard critique sur nos traditions. Il ne faut pas nier que nos traditions, elles sont pétries de patriarcat, d'une forme de misogynie, bien sûr, parce qu'elles sont les enfants d'un temps où les femmes n'avaient pas la place qu'elles ont aujourd'hui dans la société. Mais faire de ces traditions des traditions vivantes, c'est accepter de les bousculer un peu.
Aussi, je me demandais, est-ce que selon vous, ça dépend de la religion? Parce que la dernière fois, je me baladais dans une librairie et il y avait plusieurs livres et souvent revenait la question de l'islam et du port du voile sur, avec le féminisme. Donc est-ce que le féminisme ne serait pas quelque chose qui est à cause des clichés qu'on a par rapport aux autres religions et dépendant de cela ?
Alors, c'est une très bonne question, mais moi je ne crois pas. Moi je crois qu'au sein de toutes nos traditions, quelles qu'elles soient, que ce soit, voilà, prenons les trois religions monothéistes, le christianisme, l'islam et le judaïsme, il y a au sein de ces trois traditions des voix conservatrices et des voix progressistes. Et en fait, les voix progressistes de ces traditions se retrouvent toutes sur l'idée qu'il y a une possibilité de faire évoluer le statut de la femme, alors que les voix conservatrices, à l'unisson, et pour une fois qu'elles tombent d'accord, alors on pourrait s'en réjouir, mais malheureusement c'est sur le dos des femmes bien souvent, considèrent que les femmes n'ont pas leur place, ou qu'en tout cas elles sont ramenées à être voilées dans tous les sens du terme, parce que la question, c'est pas juste la question du voile, de se couvrir les cheveux. Dans toutes les traditions religieuses, il y a l'idée que la femme doit être un peu éclipsée, parce que selon les voix conservatrices, elle représente la tentation, etc., une forme de menace ou de subversion. Donc vous voyez, ce combat, il est amené un peu partout. C'est pas le combat d'une tradition ou d'une autre, c'est le combat des voix progressistes face à un rigorisme fondamentaliste qui aujourd'hui, malheureusement, bien souvent, dans nos traditions respectives, a le vent en poupe. Et c'est ça, pour moi, le combat à mener.
Merci. Tania de Montaigne, quel avis avez-vous sur l'actualité que connaît Sciences Po avec le hashtag Sciencesport ?
Ce que raconte ce hashtag, et ça va dans le sens de ce que dit Delphine, c'est-à-dire que ce que ça raconte en ce moment-là, ce qu'on est en train de vivre, c'est justement cette question de sortir d'un principe et de dire bah c'est comme ça, parce que bon bah ouais, la vie c'est comme ça, bah oui, il y a des messieurs qui décident, puis bon, est-ce que c'est si grave? Bah non, on a toujours fait, d'ailleurs souvent on dit bah ça a toujours été comme ça, c'est ce qui est opposé quand on dit bah non, en fait ça n'est pas juste. Donc ce qui est intéressant, c'est que aussi, je pense, dans cette question du progressisme et du conservatisme, en plein milieu il y a la question de la justice, donc de la justesse, de ce qui est juste. Et donc le droit vient au milieu de quelque chose qui était de la tradition, en fait, de dire bon écoute, on a toujours fait comme ça, tu vois, ça dérangeait personne, on va continuer. Bah non, justement, ce hashtag et tous les autres sont en train de dire le droit va partout, et donc ça n'est pas la tradition qui domine, c'est le principe d'égalité, de justice, et donc ça doit s'opérer aussi en ce sein là Et je pense que c'est intéressant, la démarche de Delphine, comme d'autres personnes qui, à l'intérieur de chaque institution, sont en train d'essayer de mettre la question de la justesse et de la justice. Ça me paraît intéressant. La question du droit, de l'égalité, quand elle va commencer à infuser partout, on va, à mon avis, faire un grand pas sur comment est-ce que le patriarcat va être chamboulé.
Tania de Montaigne, quels sont les écrivains qui vous ont inspiré ? Et Delphine Horvilleur, quelles figures vous ont inspiré ?
Les écrivains qui m'ont inspiré. Alors, il y a James Baldwin qui m'a inspiré. Enfin, de toute façon, en fait, tous les écrivains que je pourrais, et les écrivaines dont je pourrais parler, c'est toujours des gens qui ont, pour moi, déplacé quelque chose. Hein, des gens qui, alors, soit ils l'ont déplacé dans la forme, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, comme Dan Fante, par exemple, ou comme Hubert Selby, c'est des gens qui, par exemple, ont mis l'oralité dans l'écriture. Et pour moi, c'était un truc inédit, parce que vous qui êtes au lycée, vous qui êtes, qui avez donc tout un cursus scolaire, on a une vision de ce que c'est qu'un écrivain. Bon, déjà, en général, on a une vision que c'est quelqu'un de mort, hein, en général. Et que c'est une langue particulière. Puis alors, quand on est en France, il y a encore plus cette idée que l'écrivain, c'est une personne avec une chemise ouverte. Et l'inspiration vient à un moment, il prend sa plume et il fait des phrases complètement insensées. Et pour moi, c'était une vraie découverte de voir des écrivains qui, eux, partaient du langage de tous les jours, donc de l'oral, et qui essayaient, à partir de l'oral, de fabriquer une langue littéraire. Et là, je me suis dit, alors ça, c'est un sacré scoop. Donc voilà. Après, il y a d'autres personnes qui ont pu arriver. Ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours des voyages, hein, les écrivains. Donc à un moment, on découvre quelque chose qu'on ne connaissait pas. Et par exemple, une femme comme Marguerite Duras, pour moi, c'était vraiment un choc, quoi, parce que voilà quelqu'un qui invente, qui produit. Je ne sais pas, il se passe des choses pendant que je parle. Insensé. Oui, donc voilà. Donc Marguerite Duras, il nous reste 10 minutes. Très bien.
entendre le rire de Tania, qui est quand même extraordinaire et qu'il faut s'enregistrer pour les jours où ça va pas bien. Moi, c'est ce que j'ai envie de faire, de me le passer en boucle pour tous les matins de ma vie où je me réveille alors que je suis pas en forme.
Bon, vas-y, toi, les gens qui t'ont influencé.
Ben, en fait, il y a plein de gens qui m'ont influencé, mais j'ai envie de parler aussi d'auteurs qui m'ont influencé. Moi, j'ai été très influencée par Romain Gary. En fait, c'est un personnage que je trouve extraordinaire. C'est Romain Gary, il a écrit une partie de ses livres sous le nom de Émile Ajar. Il avait un pseudo, d'ailleurs, ça lui a fait gagner deux fois le prix Nobel sous chacune de ses deux identités. Et en fait, dans tous ses livres, il explore de façon super intelligente la question de l'identité. En fait, il dit toujours qu'il n'est pas vraiment qui on croit qu'il est, parce qu'il peut être quelqu'un d'autre, et qu'il interdit à quiconque de lui dire, de l'assigner à identité, de dire « voilà qui tu es une fois pour toutes ». Et je trouve que c'est l'auteur qu'on a tous besoin de relire aujourd'hui, parce que, vous l'avez vu, il y a une obsession identitaire autour de nous. Les gens sont obsédés à vous dire « voilà qui je ne suis que cela, je suis mes origines, je suis mon histoire, je suis ma douleur, je suis ce qui m'est arrivé ». Et en fait, c'est pas ça l'identité. En fait, l'identité, c'est la possibilité qui est donnée à chacun d'entre nous de faire quelque chose avec ce qui lui est arrivé, et de jamais laisser définir qui on est par ce qu'on a déjà été, mais par une potentialité d'être. Donc voilà, c'est celui que j'invite à relire aujourd'hui beaucoup, Gary.
Delphine Horvilleur, vous a-t-on reproché de vous exprimer dans l'espace public du fait d'être croyante ?
J'ai pas l'impression qu'on me l'ait reproché. Disons que ce qui est compliqué dans notre pays, c'est qu'on est un pays laïque, un pays où la laïcité s'exerce, mais souvent il y a un malentendu sur cette laïcité. La laïcité, pour moi, c'est, et j'utilise volontairement un mot religieux, c'est une bénédiction pour nous tous, parce que la laïcité, c'est la garantie que l'espace et l'air n'est pas saturé d'une croyance. C'est-à-dire que l'espace laïque, le cadre laïque, fait que, peu importe ce que je crois, ou ce que Tania croit, ou ce que vous croyez, il y a toujours un espace plus grand qui permet à d'autres croyances que les nôtres d'avoir leur place, et qui garantit en principe que tout le monde puisse respirer. Donc je crois que c'est pas du tout une interdiction, la laïcité, que des croyances des uns et des autres existent ou s'expriment. C'est juste une impossibilité qu'elle sature l'espace pour notre plus grand bien. Voilà. Donc j'ai pas l'impression qu'on m'empêche du tout de parler, mais je pense que c'est important de se rappeler en permanence qu'on laissera les convictions et les croyances de personnes s'imposer aux autres dans l'espace de la laïcité.
Vous connaissez bien les États-Unis toutes les deux. Delphine Horvilleur, vous y avez vécu. Pensez-vous que notre pays, la France, a des enseignements à tirer de cette société multiculturelle ?
Alors moi, j'ai vécu longtemps, c'est vrai, aux États-Unis. J'y ai fait une partie de mes études. Et aujourd'hui, c'est fascinant de voir le malentendu qu'il y a entre nos deux pays, souvent, parce que, vous savez, la laïcité dont on parlait il y a un instant, c'est pas du tout ce que les Américains appellent le « secularism ». En fait, et ça, c'est un produit de nos histoires très différentes. La société américaine, elle s'est construite comme une libération des religions. C'est-à-dire qu'en fait, des gens qui étaient opprimés et qui ne pouvaient pas pratiquer comme ils l'entendaient fondent la société américaine, qui donc leur garantit une liberté de religion. Alors que la France, elle a une histoire radicalement différente. L'histoire de la France, c'est au contraire une garantie de liberté, ce qu'on pourrait dire en anglais « from religion », c'est-à-dire que chacun est libre dans notre pays de ne pas avoir à subir les pressions de sa naissance, les pressions de son ancrage religieux. Et donc, on est construit vraiment sur des strates historiques qui sont presque aux antipodes, la France et les États-Unis. Et donc, pour comprendre l'autre, il faut comprendre son histoire et respecter son histoire. Et aujourd'hui, souvent, le malentendu entre nos deux pays, il naît de cette méconnaissance de nos histoires respectives. Moi, j'ai énormément de respect pour le modèle américain, la façon dont il conçoit les affiliations et les communautés, mais c'est pas notre modèle, et l'importer à la France serait une vraie erreur, parce que c'est pas notre histoire, et nous, on a ici à chérir les strates de notre histoire. Et le profond respect pour l'individu qu'a permis la laïcité à la française.
Oui, c'est vrai qu'il y a un malentendu, parce que comme il y a quand même un lien entre, évidemment, ces deux pays sur la façon dont ils se sont constitués, sur la circulation des philosophes, sur la question des constitutions, on pense qu'en fait, un pays peut être l'ombre portée de l'autre. Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire que effectivement, ce qui structure ces deux pays est complètement différent. Ce contre quoi se sont structurés ces pays est complètement différent. C'est à l'opposé, effectivement. Et que nous, en fait, on a une trajectoire. Si on a dû élaborer ce principe de laïcité, c'est parce que nous avons eu affaire concrètement à ce que produit la violence religieuse. nous avons concrètement eu affaire au génocide et nous avons dû concrètement, alors que ce soit de la Saint-Barthélemy jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, on sait comment, ce que ça produit en fait. Et nous, c'est pour faire face à cette sauvagerie qu'on a élaboré un système qui fait qu'on neutralise et qu'on dit l'État n'intervient pas dans cette question, c'est ta sphère intime. On a décrété cette histoire d'intimité et on essaye de travailler autour de cette question-là. Donc, de toute façon, en fait, il y aurait une impossibilité de plaquer, ça n'existe pas, de prendre un système et de le plaquer sur un autre pays. Ça n'arrive jamais, ça.
Et puis, le multiculturalisme à l'américaine, il fait, par exemple, moi, j'en fais souvent l'expérience aux États-Unis, que beaucoup de gens commencent leur phrase en disant « En tant que noir, je pense que... En tant que juif, je pense que... » Et ça, c'est pas transposable au modèle français. Moi, je n'ai pas envie, en France, de commencer une phrase en disant « En tant que juive ». Parce que si je commence ma phrase « En tant que juive », immédiatement, j'ai envie de mettre des virgules en disant « En tant que juive, parisienne, mère de famille, ayant grandi en province, je n'accepte pas qu'on réduise mon identité à cela parce que j'ai grandi dans un autre modèle qui a une autre histoire. »
Alors, Tania de Montaigne, samedi dernier sur France Inter, vous avez adressé aux élèves « Faites votre boulot ». Aujourd'hui, je suis motivée, je fais quoi ?
Ah, j'adore cette histoire, c'est extraordinaire. Alors, oui, faites votre boulot, et ben, y a plein de choses à faire. Déjà, en fait, il y a, si vous constatez que quelque chose vous semble injuste, que quelqu'un est victime de quelque chose dont vous estimez qu'il y a une rupture d'égalité, faire son travail, ça peut être déjà très simple, c'est d'aller voir la personne qui est victime de ça et de lui dire « je suis avec toi ». Ça, c'est la chose essentielle. Après, il se trouve que là, en fait, je disais ça aussi parce qu'il y a un numéro de téléphone qui a été mis à disposition qui est destiné à ce que, soit parce que je suis victime d'une discrimination, soit parce que je suis témoin d'une discrimination, je vais en faire part au défenseur des droits qui va, avec moi, réfléchir aux meilleurs moyens d'intenter une action à ce sujet-là, ou une médiation, peu importe. Et donc, moi, je pense que là, on a vraiment, grandeur nature, la possibilité de s'exercer à la citoyenneté. Donc, faites votre boulot, ça veut dire qu'il y a plein de choses que vous pouvez constater sur la rupture d'égalité, de plein d'ordres, il faut être attentif, et qu'à chaque fois que vous constatez ça, et je pense que c'est d'ailleurs intéressant de le faire en groupe, c'est-à-dire de se dire, bah voilà, par exemple, si vous allez dans un commissariat, machin, vous constaterez qu'en fait, il n'y a pas d'interprète. Si je suis sourde, je ne peux pas déposer ma plainte. C'est un problème. Je le constate, puisque je peux ne pas en être victime et le constater. Alors, moi, je pense qu'il y a un petit truc à faire. Il y a des endroits, il n'y a pas de rampe d'accès. Donc, si j'ai un fauteuil, bah, je ne rentre pas. C'est une rupture d'égalité, je suis un citoyen, je dois pouvoir rentrer partout. Il y a un droit qui est vraiment essentiel et qui, là, vraiment n'existe pas. Donc, je pense que dans tous ces domaines-là, il y a quelque chose à faire. Et ce qui est intéressant, c'est que là, ça nous exerce sur la question vraiment fondamentale du droit. Donc, il faut y aller, quoi.
D'accord. Delphine Horviller, Tania de Montaigne, merci pour cet échange enrichissant et passionnant. À bientôt.
Merci.
Merci beaucoup.